Alors, juste pour se situer, je vous souhaite la bienvenue dans le cours « En esprit, en vérité ». Ce matin, on va couvrir les leçons 5 et 5B, ces deux leçons brèves. Et puis, nous sommes le 14 avril, donc juste pour situer la vidéo. Je vous invite toujours, si vous venez de vous joindre au cours, à aller voir les cours précédents sur le site web dans la section « Ressources ». Vous pouvez vous inscrire aussi sur la liste d'envoi pour recevoir les notes de cours, mais vous pouvez les trouver aussi en format PDF, je crois, sur le site web. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va attaquer ça. Je me mets une petite minuterie. Voilà. Père éternel, on vient dans ta présence pour apprendre, Seigneur, à te connaître, à t'adorer, à te servir, Seigneur, comme tu veux être adoré, Seigneur. Seigneur Jésus, avec ta venue, il y a tant de choses qui deviennent, j'oserais dire, Seigneur, plus belles, plus vraies, même plus naturelles, je dirais. Et je te demande, Seigneur, de nous aider à apprécier cela ce matin, à absorber ça, à être transformé, puis que ça puisse s'appliquer pendant la semaine, Seigneur. Continue à nous faire grandir comme adorateurs et Seigneur, que nous puissions chercher à te connaître, à t'aimer, à te servir, à t'adorer comme tu désires l'être, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Amen. Amen. Alors, leçon 5. Dans le fond, on quitte les Évangiles pour aller dans le livre des Actes. C'est très, très, très pertinent pour comprendre comment est-ce qu'on adore à la lumière du Nouveau Testament, de voir comment l'Église va vivre son adoration. D'accord? Avant, les disciples étaient avec Jésus. Jésus enseigne des choses centrales sur l'adoration. Maintenant, Jésus, après sa résurrection, monte au ciel, puis là, tu as l'Église qui est là. C'est comme si on se retrouve avec le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, puis là, on peut aller voir comment est-ce que ce peuple-là va adorer. Donc, regarder dans le livre des Actes comment l'Église vit, c'est super instructif pour nous pour comprendre l'adoration. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de matière, il y a pas mal de matériel, de choses à apprendre, puis des choses qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi on fait les services comme on les fait, pourquoi les services protestants ont au centre du service la prédication de la parole, par exemple. Il y a un lien avec l'adoration dans ça. Alors que quand vous allez dans une église catholique, le cœur du service, c'est l'Eucharistie. Qui a été quand même pas mal copié sur le service dans l'Ancien Testament. D'accord? Mais aussi, pourquoi est-ce que nos bâtiments n'occupent pas l'importance que le temple pouvait occuper? Dans quelle mesure l'adoration qui se passe le dimanche matin, quelle importance ça va occuper par rapport au reste de la semaine? C'est des choses qu'on apprend dans le livre des Actes. D'accord? Puis qu'on va apprendre après ça dans les Épîtres, mais on le voit dans la vie d'Église dans le livre des Actes. Donc, c'est très concret pour nous. On voit dans le fond comment les chrétiens adorent, comment ils vivent l'adoration dans le livre des Actes. C'est vraiment intéressant. Dans l'Évangile, dans les quatre Évangiles, Jésus nous a appris qu'il est lui-même le temple de Dieu, que c'est en Jésus qu'on va rencontrer Dieu. Dans l'Ancien Testament, on se rendait au temple pour aller rencontrer Dieu. Lorsqu'on arrive dans les Évangiles, progressivement, c'est ça que Jésus va enseigner. Et donc, c'est vraiment en allant vers Jésus qu'on va rencontrer Dieu directement. Dans un sens, là, d'une manière figurée, il devient le lieu où je rencontre Dieu. Chaque fois que dans mon cœur, je me tourne vers Christ, je prie, j'adore Christ, je m'adresse au Père à travers la personne de Christ, je vis dans un certain sens, je vis véritablement tout ce que je pouvais vivre de plus grand et plus encore que ce que j'aurais pu vivre en allant dans le temple, par exemple. là où Dieu avait promis que sa présence serait toujours là. Son regard serait toujours là, le peuple pourrait toujours aller rencontrer Dieu. Et donc, ce qui va changer, j'aime bien cette phrase au début de la page 2, si vous allez au haut de la page 2, « La vie n'a d'autre but que d'être offerte à Dieu dans l'adoration et l'action de grâce. » Donc, si on avait à résumer ce qu'on apprend dans le livre des Actes sur l'adoration, si j'avais à le résumer en une phrase, c'est ça que je dirais. Ce que j'apprends dans le livre des Actes, c'est que l'adoration n'est plus attachée à un lieu, mais l'adoration, c'est un geste de tous les jours. C'est une manière de vivre. C'est un style de vie qu'on va adopter. Et pour être franc avec vous, je ne pense pas que chez les évangéliques contemporains, c'est quelque chose qu'on a vraiment à l'esprit au quotidien. Je pense que c'est vraiment un domaine où on a beaucoup à grandir. Je pense que notre réflexe, souvent, c'est de penser que notre adoration, ça se fait à l'église le dimanche matin. Ça se fait quand je fais mon culte le matin. Mais de penser quotidiennement, là, puis peut-être que vous le vivez comme ça, mais pour moi, c'est un défi de me dire, je m'en vais faire la vaisselle, puis la manière que je vais le faire en ramassant la vaisselle de quelqu'un d'autre qui traîne, puis en le faisant de bon cœur, je suis vraiment en train de servir et adorer Dieu. Par les gestes que je suis en train de faire, c'est mon service d'adoration. Et ça, c'est quelque chose qui devient clair à travers les Actes, puis qui va devenir clair aussi à travers l'ensemble des Épîtres. Donc, si on avait à résumer ce qu'on apprend dans le livre des Actes sur l'adoration, je le résumerais cette phrase-là, « La vie n'a d'autre but que d'être offerte à Dieu dans l'adoration et l'action de grâce. Donc, j'avance dans les notes. Si vous voulez une copie des notes, vous les avez sur une table là-bas où est-ce qu'il y a les produits pour se désinfecter les mains. Je pense qu'il y a des copies des notes de cours. Alors, évidemment, les discours qu'on trouve dans le livre des Actes vont être super importants parce que lorsque les apôtres commencent à enseigner, on entend dans ce qu'ils enseignent, c'est quoi pour eux l'adoration. Et la chose qui frappe le plus dans le livre des Actes, je vous dirais, c'est l'importance de Jésus-Christ. À travers les discours du livre des Actes, la personne de Christ devient le centre de l'adoration. Dieu, le Père, mais le Seigneur Jésus-Christ, avec un titre qui était réservé à l'Éternel dans l'Ancien Testament, est au centre. Donc, la personne de Christ devient au centre. Je suis dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui est le centre de notre adoration. J'arrive dans les évangiles, dans les quatre évangiles, Jésus se révèle lui-même progressivement. D'accord? Quand on arrive à la fin des évangiles, on voit que les apôtres s'en vont de plus en plus vers cette attitude-là d'adorer carrément le Seigneur. D'accord? Lorsque j'arrive dans le livre des Actes, c'est ce qui est enseigné à l'Église. Il est enseigné à l'Église d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on entend à travers les prédications des apôtres carrément. Donc, si vous allez au milieu de la page 2, « Ainsi, les apôtres placent Jésus le Christ, le Messie, le Sauveur, au centre de la vie d'adoration. Ils annoncent que la crucifixion était selon les desseins des hommes, selon les desseins de Dieu pour les hommes, pour le pardon des péchés. » Et donc, ça va être au cœur de tout ce qu'ils vont prêcher, de tout ce qu'ils vont dire, de tout ce qu'ils vont célébrer. Ils célèbrent l'amour de Dieu en célébrant l'œuvre de Christ. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël célébrait l'amour de Dieu en célébrant la sortie d'Égypte, l'établissement dans la terre promise. D'accord? Constamment, le peuple se rappelait des grandes œuvres de Dieu en faveur d'Israël, l'amour, la patience de Dieu envers Israël, les bontés de Dieu envers Israël. Quand tu arrives dans le Nouveau Testament, ça se résume à une personne, à une œuvre, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui est au cœur de l'adoration. Jésus-Christ est donc, selon le livre des Actes, au centre des desseins eschatologiques de Dieu. Eschatologie, la fin des temps, Jésus est au centre, c'est la clé qui explique tout le plan de Dieu pour l'histoire des hommes. C'est pour ça qu'une des manières qu'on va résumer la Bible, c'est qu'on va parler de l'histoire de la rédemption, avec la création, la chute, le rachat, la nouvelle création. Puis la personne qui est au centre de tout ça, c'est la personne de Jésus-Christ. Au bas de la page 2, En fin de compte, nous pouvons dire que le message des apôtres n'est pas très différent. Écoutez bien ceci, parce que je cherche toujours à faire les liens de continuité avec l'Ancien Testament, puis les choses qui changent. Mais écoutez bien ceci. En fin de compte, nous pouvons dire que le message des apôtres n'est pas très différent de celui de l'Ancien Testament. La communion avec Dieu est possible uniquement sur la base du rachat ou du pardon effectué par Dieu lui-même, maintenant dans la personne de son Fils. D'accord? Il faut venir à la connaissance de son Fils pour connaître Dieu lui-même, et une fois baptisé en son nom, les croyants entrent à son service. Fait que c'est pas, fondamentalement, c'est pas si différent que l'histoire de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est sauvé par Dieu, Dieu se fait connaître à eux et ils entrent à son service. Dans le Nouveau Testament, Dieu envoie son Fils, nous rachète à travers son Fils, se fait connaître à nous, on entre à son service. Une fois qu'on a cru en lui, on entre dans une nouvelle alliance, puis on entre à son service. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ça va? C'est bon, c'est clair? Oui, Camille. Oui, puis ta question est liée à une note dans le cours, c'est ça? Juste pour te situer. OK. Bien, Paul va parler de rançon. Pierre va parler de rançon. Puis le terme qui est utilisé, c'était un terme qui était utilisé aussi, par exemple, lorsque des soldats étaient faits prisonniers. Puis tu pouvais payer un tribut pour libérer tes soldats, pour racheter tes soldats. C'est la même terminologie qui est utilisée. Donc, il y a vraiment l'idée que... Christ est ma rançon. Christ est offert à ma place pour que moi je sois libéré. D'accord? Fait que pour moi, il y a définitivement cette notion-là. Maintenant, ça ne parle pas de la question est-ce qu'il est fait péché. Ça, c'est d'autres passages qui vont en parler. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, Christ prend le salaire de mon péché. Bien, la rétribution du péché. Oui? Ah, OK, c'est parce qu'on m'avait dit la semaine dernière qu'avec ça, tu les avais. Pas tant que ça. Parfait. Si on peut avoir le petit micro sans fil, pour l'instant, je vais les répéter. Vas-y, Camille. C'est quoi ta question? Définitivement. C'est-à-dire que... il faudrait aller les voir verset par verset. OK? Parce que c'est pour ça que lorsqu'on parle du salut, on va parler de différentes dimensions. L'expiation, le rachat, la rédemption. On a quelques mots grecs différents qui donnent des nuances différentes. Oui. Ça aboutit au même résultat. Maintenant, on va, par exemple, donc pour le commun des mortels, ça veut tout dire la même chose. Bien, j'espère qu'à travers la prédication, à travers les années, quand tu es dans une église pendant plusieurs années, on voit différents passages qui vont aborder différents angles. Puis c'est pour ça que lorsqu'on va dans les passages, on prend le temps de voir c'est quoi la nuance qu'il y a là. Fait que lorsque Christ est fait péché à ma place, ça veut dire qu'il prend la colère de Dieu à ma place. D'accord? Donc, la rétribution que mon péché méritait tombe sur Dieu. Fait que ça, c'est assez clair comme énoncé. Maintenant, après ça, Dieu va utiliser le langage où il va dire, par exemple, donc, il paye le péché à ma place, il m'offre une vie nouvelle. Donc, c'est pas juste que sa vie est donnée, puis sa mort est donnée pour que moi je sois sauvé, c'est aussi que sa vie parfaite m'est imputée à moi, m'est donnée à moi aussi. Donc, il n'a pas seulement été parfait dans sa vie, puis il a pris mon péché sur la croix, il a vécu la vie parfaite d'un enfant de Dieu aussi. Puis ça, ça m'est donné, puis avec l'Esprit-Saint, progressivement, il va la produire en moi. Fait qu'il y a différents angles, il y a différents aspects. Mais je vais revenir au nom du cours, puis on verra peut-être si on peut revenir sur ça. Puis, est-ce qu'on a l'autre micro pour si j'ai d'autres questions? Oui, OK, parfait, merci. C'est intéressant, au début du livre des Actes, les apôtres puis les disciples ne quittent pas le temple. Ils vont au temple. Ils vont au temple. Bien, il y a des raisons pratiques pour aller au temple. Premièrement, si tu veux évangéliser, imagine un instant que tu annonces l'Évangile dans la cour du temple. T'sais? Fait que là, tu deviens comme un guide touristique qui donne une nouvelle lecture du temple. Alors ici, on a l'autel, puis l'autel, bien, vous voyez, ça préfigurait ce que Christ a fait sur la croix. Il me semble que ça devait être complètement malade d'annoncer l'Évangile dans la cour du temple. Ça, bien, évidemment, ça a mis les autorités juives en fusil très, très vite. Donc, ils vont être chassés de la cour du temple. Mais pour eux, ils n'ont pas à se pousser de là. Parce que même si tout est accompli en Jésus-Christ, le temple demeure une illustration de l'Évangile. J'ai plus besoin des sacrifices, mais c'est un bel endroit où aller annoncer l'Évangile, c'est un bel endroit où aller prier. Et donc, ce n'est pas qu'il faut détruire le temple. À la limite, si on pouvait avoir le temple comme un musée de l'Évangile, ça serait génial. Tu sais. On irait visiter ça, puis on dirait, regardez, on n'a plus de sacrifices maintenant ici, c'est plus nécessaire, parce que ça a été accompli en Jésus-Christ, d'accord? Donc, les disciples, les premiers disciples ne vont pas se sauver loin du temple. Ils vont aller là, ils vont prier, ils vont enseigner, ils vont prêcher l'Évangile, jusqu'à ce qu'on les chasse, évidemment, de cet endroit-là. Puis va venir le premier martyr, Étienne. Puis là, Étienne va nous aider à comprendre un petit peu plus l'adoration à travers son discours, entre autres. Si vous allez au bas de la page 3, on lit, je vais au milieu du paragraphe, « Nous voyons en effet, à la toute fin du discours d'Étienne, apparaître le thème de la non-permanence du temple, alors qu'il annonce Jésus-Christ le juste. Ce juste qui avait été annoncé est venu accomplir toutes choses et se trouve à présent à la droite de Dieu. » C'est cette prédication qui devient l'élément déclencheur de la première persécution majeure contre les chrétiens et qui entraîne leur expulsion du temple de Jérusalem. Et puis Luc va terminer ce récit-là avec la mort d'Étienne, avec ce commentaire-ci. Il dit dans Actes 8, 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Donc les chrétiens n'ont absolument pas besoin du temple pour adorer. Ils vont se mettre à adorer partout sur la terre. Mais le premier réflexe, ce n'est pas nécessairement de quitter le temple. Ce n'est pas comme un obstacle à l'adoration. Au contraire, c'est comme la meilleure illustration que tu peux avoir de l'Évangile, de ce que Jésus est venu faire. C'est accompli maintenant. Mais lorsqu'ils sont chassés, ils s'en vont partout puis ils vont se mettre à adorer partout. Ils n'ont pas besoin du temple pour adorer. Donc, on observe ça au début. Si vous allez au haut de la page 4, « En effet, la proclamation de Jésus-Christ à Jérusalem sonne le glas de l'avancée missionnaire de l'Église afin que Jésus-Christ sauveur, non seulement des Juifs, mais de tous les hommes, soit proclamé, que des hommes de toutes nations viennent à Dieu. À présent, des hommes de toutes les nations de la terre viendraient à Dieu dans la communion à celui qui est le nouveau temple, Jésus-Christ. Ceci ne dépend plus de Jérusalem. » Au début des Actes, du livre des Actes, on découvre que les chrétiens n'ont pas besoin d'un temple pour adorer Dieu. D'accord? C'est une des critiques importantes qu'on fait contre l'Église catholique. D'accord? C'est pour ça que le service, le culte, la célébration protestante est fondamentalement différente de ce qui se fait dans l'Église catholique, parce que l'Église catholique cherche à reproduire le temple dans chacune de ses cathédrales, en disant que c'est un endroit spécial où tu t'en vas rencontrer Dieu. Alors que pour nous, s'il y a un endroit spécial, si j'avais à définir un endroit spécial, ce serait là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. D'accord? Fait que dans un sens, tous les chrétiens, partout, ne peuvent pas être plus près de Dieu que là où ils sont s'ils s'approchent de Dieu en Jésus-Christ. Peut-être la seule autre chose que j'ajouterais, c'est qu'il y a une importance particulière là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Donc, quand l'Église se réunit, il y a quelque chose de spécial, mais ce n'est jamais lié à un lieu, à un endroit, à un bâtiment. Ça n'a rien à voir avec ça. D'accord? Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a que j'irais jusqu'à dire qu'il y a un piège réel dans les édifices qui deviennent trop beaux. Je suis pas en train de dire qu'il faut garder nos édifices laids ou tout ça, mais ce que l'Église catholique a cherché à faire avec les cathédrales, c'est développer une architecture tellement grandiose, tellement majestueuse, que lorsque tu entres à l'intérieur, tu as le sentiment que Dieu est présent. La preuve, c'est que, je veux dire, puis moi, j'ai été baptisé catholique quand j'étais bébé, mais je veux dire, j'ai jamais grandi vraiment dans l'Église catholique. Dès mon primaire, on m'a retiré de l'Église catholique, dès ma maternelle. Là, fait que je connais pas l'Église catholique comme expérience. Mais si je rentre dans une cathédrale, je le dis souvent à l'Église, si je rentre dans une cathédrale, j'ai un peu le même sentiment devant l'esthétique, devant la... Si tu es sensible à l'esthétique, c'est automatique. Si tu es un peu mystique, c'est bas, c'est automatique. J'ai le même sentiment de la présence de Dieu que devant un beau coucher de soleil. Quand on va en Haïti, quand je vais en Haïti en mission, là, puis je me lève à 6 heures le matin, puis là, j'assiste au lever du soleil, puis je vois l'océan qui est là-bas, puis... C'est comme Dieu est là, tu sais, Dieu est là. C'est très humain, c'est la création de Dieu. Puis il y a quelque chose de vrai dans tout ça, dans un certain sens. C'est la création de Dieu. Si je vais dans un édifice merveilleux, c'est des êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu, qui ont conçu des choses qui sont belles, puis ça me parle de Dieu, tout ça. Mais c'est pas ça que l'Église catholique cherche à faire. Elle cherche à induire un sentiment de la présence du divin à travers un édifice. Le livre des Actes me dit non. Je veux dire, il avait l'édifice, c'était le temple. Tu sais. Puis l'Église va se détacher du temple en disant non. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, dans des catacombes, dans des cavernes, dans un champ, dans la forêt, en train de se sauver en cachette, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Dieu est particulièrement présent. Et donc, il y a un piège réel. Fait que les protestants ont toujours eu un rapport mitigé. Là, je fais un commentaire sur le côté, là, très bref. Mais les protestants ont toujours eu un rapport mitigé avec les arts, même les arts saints, d'accord? Les arts servent à véhiculer souvent de la débauche, du péché, mais il y a plein de choses dans le domaine des arts qui est absolument merveilleux puis superbe. Puis les protestants ont toujours eu un rapport mitigé avec ça parce que d'un côté, tu peux avoir les artistes dans l'Église qui disent « Oui, mais ça fait partie de ma manière d'adorer Dieu, de faire des belles choses, que ce soit de la musique, des toiles, n'importe quoi, des sculptures. Alors, pourquoi pas embellir, admettons, l'Église, le bâtiment? » Fait qu'il y a vraiment eu des tensions, par exemple, entre Jean Calvin puis Martin Luther dans leur compréhension de la place des arts dans le service. Pour Martin Luther, ça allait de soi. On va chanter, on va louer, on va faire tout ce qu'il y a de plus beau, tout ça. Et puis, pour Jean Calvin, il y avait toujours un piège, il y avait toujours un danger parce que le sentiment religieux associé à des choses physiques, il y a toujours un piège pour nous de se distraire de ça. C'est une des... J'aurai l'occasion, parce qu'on va prendre le temps d'enseigner l'Église un peu sur ça, mais il y a des gens qui parfois sont troublés parce qu'il y a des moments où on n'a pas de croix, puis on a une croix, puis tout ça. Puis on va prendre le temps de bien enseigner l'Église sur ça, mais il y a même un piège pour nous, de dire, ça me prend ça pour sentir que je m'approche de Dieu. Voyez-vous? Alors que, je veux dire, même comme symbole chrétien, la croix n'est pas là au début. Ils ont d'autres symboles, les chrétiens, que la croix. Donc, c'est... Fait que les protestants ont toujours un rapport un peu mitigé par rapport aux arts, dans le sens que ça fait définitivement partie des choses superbes que l'être humain peut faire et qui peuvent participer à notre célébration, sans aucun doute, on le fait. Des instruments de musique, tantôt on va chanter accompagné par des artistes qui vont faire de la musique, d'accord? Lorsqu'on produit des images, des posters, on veut que ce soit le plus beau possible. On est en train d'adopter un projet pour embellir notre salle ici, que ce soit plus accueillant, plus chaleureux, qu'on ait une atmosphère un peu. Mais en même temps, tout ça doit pas être associé au sentiment de la présence de Dieu. Ça, c'est très clair dans le livre des Actes. Je continue un peu dans les notes à la page 4. La venue de l'Esprit et la prédication de Christ. Alors ça, c'est deux éléments majeurs dans le livre des Actes pour comprendre l'adoration. La venue de l'Esprit et la prédication de Christ. Le livre des Actes, nous pourrions dire, s'ouvre sur la doctrine du Saint-Esprit, appelée parfois aussi les actes du Saint-Esprit. Je vais au paragraphe suivant. Avec la venue de l'Esprit-Saint, nous voyons réapparaître le thème de la présence de Dieu au milieu de son peuple, si cher à l'alliance conclue par Moïse. Donc, Dieu est présent au milieu de son peuple, son Esprit est présent au milieu de son peuple. Lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit va être davantage présent encore, présent dans l'Église, mais présent dans chacun des membres de l'Église aussi. La nouvelle communauté, sans la nécessité du temple, sera habitée par la présence de Dieu, allant à présent jusqu'à inclure des non-juifs dans la communion des saints. La présence de l'Esprit est le témoignage vivant du règne de Christ à la droite de Dieu, et nous devons de noter que la venue de l'Esprit est entièrement liée à la prédication de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, constamment à travers le livre des Actes, les apôtres prêchent l'Évangile. Des gens reçoivent l'Évangile, puis à quelques moments, l'Esprit vient sur les gens qui reçoivent l'Évangile de manière visible. Donc, dans le livre des Actes, la venue de l'Esprit au milieu du peuple de Dieu est liée à la prédication de la parole, à la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez le lien? Quand je suis dans l'Ancien Testament, Dieu promet qu'il va être là au milieu de son peuple parce qu'ils ont contracté une alliance. Quand j'arrive dans le livre des Actes, les apôtres prêchent l'Évangile, puis quand quelqu'un accepte l'Évangile, l'Esprit-Saint vient en lui. La présence de Dieu est liée à la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et par conséquent, ces deux éléments-là, ça va être deux éléments fondamentaux de l'adoration dans le Nouveau Testament. C'est toujours lié. Une Église qui arrête de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ manque dans son adoration. Et comment est-ce que des nouveaux adorateurs vont voir le jour? C'est à travers la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir recevoir l'Esprit-Saint en se reconnaissant pécheurs, en acceptant la bonne nouvelle, en croyant dans l'œuvre de Jésus-Christ. Ils vont recevoir l'Esprit-Saint, boum, un nouvel adorateur. Dieu va produire des nouveaux adorateurs à travers la prédication de l'Évangile. C'est différent de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tu rentres dans l'Alliance, puis lorsque le peuple est réuni, le peuple est repentant, Dieu vient au milieu de son peuple. D'accord? Oui, c'est différent. C'est différent, oui, puis non. D'accord? Ainsi, nous pouvons conclure à la lumière des premiers chapitres du livre des Actes que la prédication de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ doit être au cœur de l'adoration de la nouvelle communauté. Si l'adoration consiste à entrer en relation avec Dieu à la manière qu'il choisit et que lui seul rend possible, la proclamation du Christ est la clé. Si vous vous rappelez, on a vu des thèmes dans l'Ancien Testament pour l'adoration. Il y avait la notion de révélation. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu qui se fait connaître à nous et qu'on adore selon qui s'est fait connaître à nous, selon ses termes à lui. On n'y va pas intuitivement, on n'imagine pas Dieu, il se révèle à nous. Et puis, il nous rachète, il nous fait entrer dans une alliance. Dans le Nouveau Testament, tout ça se passe à travers la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est là que tout ça se passe. Dieu se fait connaître à travers la personne de Christ. Dieu rachète à travers la personne, à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et puis on entre dans cette alliance-là avec lui à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Selon le livre des Actes, la proclamation du règne céleste du Christ avec tout ce qu'il implique, tout ce qu'elle implique, constitue le moyen choisi par Dieu pour permettre aux humains d'entrer en relation avec lui par le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, l'adoration consiste à répondre de tout son être et par sa vie entière au règne de Jésus. C'est ça l'adoration dans le Nouveau Testament. Vous avez un bon résumé ici. Puis là, Paul va prêcher aux Athéniens. Puis c'est juste parce qu'on développe certains thèmes qui sont en relation avec ça que je vais aller là. Si vous allez au bas de la page 4, la dernière phrase, « Ainsi encore une fois, Pour que ses auditeurs deviennent de vrais adorateurs, ils désirent les conduire à Christ. Ils doivent se repentir de leur fausse adoration et se tourner vers Christ. Lorsque Paul arrive à Athènes, le thème de l'adoration est là. Il dit, vous êtes des grands adorateurs. Vous avez plein de dieux que vous adorez. Mais si vous voulez adorer le seul vrai Dieu, ça va se faire en connaissant Jésus-Christ. Puis il leur prêche Christ. Donc, pour devenir des adorateurs, c'est à travers la foi dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ que ça va se passer. Un élément intéressant au haut de la page 5 à relever, j'avais parlé que dans l'Ancien Testament, un des éléments importants de l'adoration, c'est tout le langage autour de se prosterner. Lorsqu'ils allaient dans la prière, ils se prosternaient. Et ça parlait d'une attitude de cœur plus importante encore que le geste physique. Cette notion-là est presque complètement absente du Nouveau Testament. Les chrétiens adorent à peu près jamais en se prosternant. C'est juste une observation que je fais. Ainsi, nous n'observons pas une pratique du prosternement dans l'adoration de l'Église nouvelle. Cependant, nous voyons apparaître dans les premières prédications la confession de Jésus-Christ, c'est-à-dire déclarer qui Jésus-Christ est, le Fils de Dieu, le Seigneur, le Sauveur. Nous retrouvons des confessions de foi et possiblement des débuts d'hymnes chez Paul qui célèbrent la gloire de Jésus-Christ qui est élevé au-dessus de tout nom et qui siège auprès de Dieu. Étienne prie Jésus en s'adressant à lui comme Seigneur. Étienne, alors qu'il est en train de mourir, s'adresse au Seigneur Jésus en utilisant le terme qui était utilisé pour l'Éternel dans l'Ancien Testament. D'accord? Et cela peut nous faire penser aux prières que Jésus lui-même adressait à son Père. Alors, nous voyons clairement se développer une théologie de la prière où les disciples prieront Jésus-Christ, le Seigneur et Dieu le Père. Fait que c'est intéressant. Si vous voulez faire une petite étude intéressante, cherchez dans le Nouveau Testament, est-ce que les chrétiens prient plus souvent le Père ou plus souvent Jésus? Puis j'avais été surpris quand j'étais tombé là-dessus, quand j'avais pris le temps de réaliser ça. C'est assez partagé. On prie le Père au nom de Jésus, mais les chrétiens prient extrêmement souvent le Seigneur Jésus. Puis quand tu regardes le contexte, c'est sans ambiguïté. Il ne s'agit pas du Seigneur comme Dieu, mais comme Jésus-Dieu. D'accord? Donc, Christ devient vraiment au centre de notre adoration. C'est ce qui va faire que les chrétiens vont essayer de résumer, ils vont résumer ce que le Nouveau Testament enseigne sur Dieu avec la doctrine de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Parce que Christ est vraiment au centre de l'adoration, et si l'Esprit est une personne en propre, bien j'ai les trois personnes de la Trinité qui sont là. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur ça? Pas de questions? Si vous allez au bas de la page 5, dernier paragraphe, je vais vous le lire. Reconnu comme l'unique exécuteur du plan de salut de Dieu, comme Fils de Dieu siégeant à la droite du Père, Jésus-Christ fut adoré à la manière dont on adorait Dieu dans la foi juive. Cette attitude n'est ni tardive, ni le fruit de l'influence de la pensée païenne, mais naquit parmi les premiers judéo-chrétiens de Palestine. Pourquoi est-ce qu'on prend le temps de dire ça? C'est parce que ce que vous allez entendre des fois sur Jésus, c'est que les chrétiens ont déifié leurs prophètes. C'est une des choses que vous allez entendre. Donc, les chrétiens croyant Jésus comme un grand prophète, par exemple, si tu jases avec un ami musulman, tu es en conversation avec lui, puis on va sur la personne de Jésus, bien, c'est ça qui va les scandaliser. C'est pas qu'on trouve que Jésus est extraordinaire qui va les scandaliser. Ils sont d'accord, Jésus est un prophète supérieur à Mahomet. Jésus, c'est le prophète de Dieu dans l'islam, d'accord? Mais pour les chrétiens, c'est beaucoup plus que le prophète de Dieu. C'est Dieu le Fils. Il est beaucoup plus qu'un prophète. Et la théorie qui est présentée dans le Coran, si vous lisez le Coran, ce que vous allez voir qu'il y a des parties du Coran où Mahomet honore les Juifs puis honore les chrétiens, puis il dit c'est nos frères, et puis on a des choses à apprendre d'eux. Puis après ça, il tient tout un autre discours. Bon, le Coran a été écrit sur une trentaine d'années, puis il y a une évolution politique à travers tout ça, là, ça serait long à expliquer. Mais plus tard, ce qu'il va dire, c'est qu'il va dire, non, attends un petit peu. S'ils enseignaient encore la vérité, les chrétiens ne vous diraient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Là. D'accord? Et donc, les chrétiens ont renié la vraie doctrine chrétienne, puis ils vous enseignent des mensonges, de même pour les Juifs. Donc, ils ont falsifié. Mahomet va dire que l'évangile qu'on a, qui appelle l'Injile qu'on a, c'est plus l'évangile. C'est un évangile qui a été tordu par les chrétiens. Mais ça va un petit peu dans cette idée que vous allez avoir des fois si vous jasez avec des gens puis vous dites, dans le fond, les chrétiens ont déifié leurs prophètes, vous en avez fait un dieu. C'est l'homme qui est devenu un mythe. D'accord? L'homme qui devint Dieu, c'est un livre qui a circulé pas mal dans les années 70. Et c'est ça la théorie qui était derrière. C'est que les chrétiens avaient un homme sage qui nous faisait connaître des choses sur Dieu et ils en ont fait un mythe. Ils l'ont élevé pour en faire un mythe. C'est faux, ça. Les premiers chrétiens priaient Jésus-Christ. Les premiers chrétiens adoraient Jésus-Christ. La doctrine de la Trinité, même si je n'ai pas le mot « Trinité » dans la Bible, ce n'est pas quelque chose que les chrétiens ont inventé plus tard pour comme bonifier leur prophète puis faire de lui un Dieu. Non, c'est le meilleur outil qu'on a trouvé pour résumer ce que les Écritures enseignent. Si tu n'as pas cette doctrine-là, à tout moment, tu arrives dans des passages et tu te dis « ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne marche pas ». Tu vas avoir des hérésies. Par exemple, tu vas être modaliste. Le modaliste, il dit que Dieu, c'est une personne qui change de costume. Des fois, il est Père, des fois, il est Fils, des fois, il est Saint-Esprit. Mais c'est une seule personne, c'est pas trois personnes, d'accord? Ça ne fonctionne pas quand tu lis. Des fois, tu as les trois personnes qui sont là, puis ce n'est pas un dédoublement de personnalité, d'accord? Des fois, au baptême de Jésus, les trois personnes de la Trinité sont présentes. À l'œuvre, en action, on assiste, on les voit, dans le sens qu'on entend le Père, on voit l'Esprit qui descend sur le Fils qui est là. J'ai les trois personnes, OK? Donc, on n'est pas modaliste, on est trinitaire. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ça? Ça va? Donc, Jésus est vraiment au centre de notre adoration. Je peux pas annoncer l'Évangile à un ami en étant comme... comme gentil, puis dire « oui, il y a des vérités dans toutes les religions ». D'abord, je ne le dirais jamais exactement comme ça personnellement. Je dirais que dans toutes les grandes religions, il y a des échos de la vérité biblique. Ça, je le dirais, parce que je pense qu'à peu près dans toutes les vies humaines, il y a des échos de vérité divine, parce que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Je ne dirais jamais que mes amis musulmans adorent le même Dieu que moi. Je ne le dirais pas comme ça. Allah, ce n'est pas Jéhovah. Ce n'est pas vrai. Eux vont penser que Allah, c'est Jéhovah. Mais je suis désolé, dans ses qualités, dans ses vertus, dans ses attributs, ce n'est pas la même personne. Allah n'est pas capable de miséricorde comme Jéhovah est capable de miséricorde. Pas du tout. C'est inconcevable qu'Allah aime tellement... D'abord, Allah ne vit pas les émotions que le Dieu de la Bible vit. Pas du tout. Beaucoup plus distant par rapport à nous. C'est inconcevable qu'Allah aime les hommes au point de donner son Fils qui vient de mourir pour nous. Ça serait une offense à son nom. Fait que la conception de la sainteté de Allah ne rentre pas du tout avec l'Évangile. C'est pas le même Dieu. Fait que quand je suis en train de parler de l'Évangile avec des amis qui ne sont pas chrétiens, puis je cherche comme à faire un peu de chemin avec eux, puis ils vont laisser tomber au Québec, on l'entend tout le temps, ils vont laisser tomber cette phrase-là. De toute façon, à la fin, on adore tous le même Dieu, tu sais, puis il y a des vérités comme l'amour qui sont là dans toutes les religions. Bien, l'amour, pour les chrétiens, ça se conjugue ainsi. Dieu vient mourir sur la croix pour moi. Dis ça à un musulman, là, bien, pas si tu veux qu'il reste ton ami. Pas la première fois, plus tard, d'accord? Mais si je déclare ça comme ça, je viens de couper la conversation. Là. Mais l'amour pour le christianisme, l'amour de Dieu, ça se décline comme ça. Fait que quand les gens disent, admettons, « Ah oui, mais tu sais, l'amour, c'est comme la valeur universelle. » Oui, mais c'est quoi l'amour? Par exemple, je me fais avorter. Je classe ça où? Ah, c'est l'amour de soi avant l'amour de l'être qui est en moi. Ça ne fait pas non plus pour les chrétiens, ça, là. Fait que l'amour, oui, mais quel amour? De quel amour on parle? De quoi on parle? Pour nous, on est tourné vers la personne de Christ, puis en étudiant Jésus-Christ, sa personne et son œuvre, je découvre qui est Dieu, je commence à m'approcher de Dieu pour l'adorer. Et toutes mes idées, toutes mes conceptions, je vais les voir à travers cette paire de lunettes-là. Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que toutes les Écritures me parlent de lui. Ça va? Je vais dans l'autre document, là, puis j'ai eu comme une espèce de doublon au début du document. Fait que si vous êtes dans mes notes, allez à la page 3. Puis c'est important, je vais terminer avec cette idée-là, mais elle est super importante. D'accord? Pour comprendre l'adoration dans le Nouveau Testament, ce qu'on va voir dans les 5 prochaines minutes, c'est super, super important. Servir le Seigneur. Avec le cantique de Zacharie dans Luc 1, 74, nous voyons revenir un thème important de l'adoration de l'Ancien Testament, soit le service de Dieu. Donc, le peuple d'Israël avait été racheté de leur esclavage en Égypte, sont devenus le peuple de Dieu pour être au service de Dieu. Ils deviennent des serviteurs de Dieu. Vous vous rappelez de ça? On a parlé pas mal de ça la semaine dernière. Ils deviennent des serviteurs de Dieu. Puis ça va être un thème important même dans Pierre, mais on va le voir à travers toutes les... parce qu'on est dans Pierre pendant l'exposé biblique. Le service de Dieu, c'est un élément super important. Je vais à la fin de ces versets-là, au verset 74, ce qui est souligné. « De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » Zacharie dit que c'est pour ça que le Sauveur a été envoyé, afin qu'on puisse être libéré de nos ennemis, pour ensuite pouvoir le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alors, vous avez l'exposé biblique de tantôt, dans 1 Pierre 1, 13 à 21. C'est ça qui est au cœur du passage, d'accord? Alors, si je vais dans Acte 18, les versets 12 et 13, les Juifs de Corinthe accusent Paul de conduire les gens à servir et adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. Ce n'est pas les apôtres qui disent ça, mais on va voir après Paul qui va dire la même chose. « Les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant, « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Puis Paul, plus tard, va se défendre en disant, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, selon le christianisme, d'accord ?» croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Ce qui m'amène à dire, puis on va pouvoir le développer dans les prochaines leçons, que pour un chrétien, notre service, notre vie, notre style de vie au quotidien, c'est là qu'est notre premier acte d'adoration. Ça commence dans mon cœur, c'est une attitude envers Dieu. Mais je ne devrais pas dire le premier acte, je devrais dire la manière la plus commune pour nous d'offrir un service d'adoration à Dieu, c'est notre service de tous les jours. À tous les jours, tout ce que je fais comme chrétien peut être un acte d'adoration. Lorsque je le fais en rendant grâce à Dieu, en cherchant à glorifier Dieu, que ce soit des épreuves que je traverse, des mauvaises nouvelles que je reçois, des conditions de vie qui me sont imposées, des opportunités de servir, juste faire mon travail, rentrer travailler avec une éthique chrétienne, ça peut être un acte d'adoration si je le fais en rendant grâce à Dieu, en remerciant Dieu pour le glorifier. Je suis en train de l'adorer. Si vous allez au bas de la page 3, nous pouvons voir que leur adoration consistait en un style de vie centré sur Jésus. Une seule fois, nous trouvons le langage de l'adoration et du service ensemble dans le cadre d'un rassemblement chrétien. C'est lorsque les pasteurs de l'église d'Antioche étaient en train de servir, ce qui est dit, là, je lis le verset au haut de la page 4, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. » C'est la seule fois où le mot « service » et « adoration » sont associés comme à un culte, si on peut dire. toutes les autres fois, le mot « service » et « adoration » est associé à comment un chrétien se comporte à tous les jours. Mon service d'adoration, c'est offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Pour faire quoi? Pour faire le bien. Si vous pensez au sermon sur la montagne, les béatitudes, c'est la même idée qui est là encore. Comment est-ce que les gens vont glorifier mon Père qui est dans les cieux? C'est en voyant comment je traverse la vie au quotidien. Comment je me comporte. Donc, à quoi ressemblaient les premiers rassemblements des chrétiens? Bien, il y a des éléments qu'on trouve dans nos services à nous. La place de l'enseignement. L'enseignement était au centre. On enseignait la parole de Dieu. Ce qui fait que si vous prenez le temps cette semaine de chercher sur Internet « temple protestant », okay, en France, les Huguenots appelaient leur bâtiment où ils se réunissaient un temple. Puis vous allez voir la manière que c'est fait, c'est qu'au centre, vous avez la place où on prêche, puis les gens sont assis partout autour. C'est pas parce que le pasteur qui s'en va prêcher, il faut l'adorer. Ça n'a rien à voir avec le gars qui est là. C'est juste parce qu'il est là pour prêcher la parole de Dieu. Et donc, c'est la prédication de la parole, la prédication de Jésus-Christ qui est au centre de l'adoration. Ensuite de ça viennent les prières. Les prières des saints. Mais si on veut résumer, puis je compléterai ça un peu dans deux semaines. La semaine prochaine, on prend une pause à cause de Pâques. On se retrouve dans deux semaines. Le plus grand focus dans le livre des Actes sur l'adoration, c'est la prédication de Jésus-Christ qui rend possible la présence de l'Esprit-Saint dans le peuple de Dieu. Puis après ça, c'est le service de Jésus-Christ à tous les jours. Les premiers chrétiens qui se rassemblent vont faire quoi? Ils vont avoir de l'enseignement, ils vont prier, ils vont prendre le repas du Seigneur, puis ils vont prendre soin les uns des autres. Ils vont pourvoir aux besoins les uns des autres. Dans Actes, c'est ça qu'on trouve. Donc, pour les chrétiens, ça n'a rien à voir avec un lieu, ça a à voir avec un rassemblement du peuple de Dieu, puis ça a à voir avec tous les jours. À tous les jours, je veux adorer Jésus-Christ, adorer Dieu, je veux prêcher l'Évangile, puis je veux simplement offrir ma vie pour servir Dieu, à tous les jours, à travers tous les gestes du quotidien. On va prier ensemble. Père éternel, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour cette grande liberté que tu nous as accordée de s'approcher